BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Les architectes de l'avenir sont ici. Nos experts vous fournissent des conseils en acier. Bienvenue à tous, c'est BFM Bourse à vos côtés jusqu'à 18h. On vit cette séance de l'intérieur, effectivement, grâce à nos experts. Étienne Braque est avec nous, la Tour Euronext, la salle de contrôle du CAC 40. Bonsoir Étienne, on est à pile 30 minutes de la clôture. Comment ça se présente ce soir?
Du rouge, encore du rouge, après une baisse de 0,8% hier, le CAC 40 cède 0,6%, mais il a réduit par deux ses pertes depuis 15 heures et retrouve les 7600 points. 7617 points, le secteur du luxe qui se remet à surperformer comme hier. Par contre, vous avez beaucoup de pression par rapport aux résultats semestriels qui vont être publiés, puisque Airbus, qui a perdu plus de 10% hier après son warning, abandonne à nouveau plus de 2%. Et puis alors, une baisse très impressionnante du côté de Alphen Amsterdam, moins 50% après avoir revu à la baisse ses perspectives. Souvenez-vous, Trigano également a perdu du terrain hier après ses résultats, donc ça met de la pression avant les résultats semestriels qui vont s'ouvrir dans quelques semaines. À noter que Wall Street est dans le rouge à l'exception du Nasdaq qui reprend 0,1%, avec Nvidia qui, après une baisse de plus de 6% hier, regagne encore 2% aujourd'hui, donc ça porte l'indice technologique.
Effectivement, en tout cas le CAC 40 sous-performe à nouveau les autres marchés européens à 4 jours des législatives. On va bien sûr en parler. On est actuellement entre la France et l'Allemagne à 72 points d'écart de taux entre les 10 ans français et allemands. Alors c'est vrai que l'écart de taux est stable depuis maintenant plusieurs jours, mais ce qu'il faut aussi surveiller, c'est la volatilité. Romain Dobry là-dessus nous alertait. C'est vrai que les marchés font plus grand-chose depuis une bonne semaine à Paris. On sent que le stress est un tout petit peu assagi, mais les indices de volatilité restent sur des niveaux à peu près similaires, comparables. Au lendemain de la dissolution, on est toujours à 21 sur la volatilité française, au-dessus de la volatilité européenne qui est à 17, au-dessus de la volatilité américaine qui est sous les 15. Et ça, c'est aussi malgré tout un point d'attention. Ça montre que le marché reste très très vigilant sur le cas français, on en parlera. La Data Room à suivre aussi tout à l'heure à 17h25. On parlera notamment du potentiel de la bourse italienne. L'un de nos experts pense que la bourse italienne a plus de potentiel que les autres en Europe. Et puis on parlera aussi de FedEx. Quelle publication pour FedEx. FedEx, un baromètre de l'économie mondiale qui nous annonce de solides perspectives, mais pas tellement grâce aux colis. On aurait pu se réjouir effectivement d'une hausse du volume de colis traités par FedEx. Ce serait un signe positif sur la croissance mondiale. Non, c'est pas ça qui tire FedEx. Ce sont les réductions de coûts. FedEx aujourd'hui à Wall Street gagne un peu plus de 12%. On va aussi en parler. On est à vos côtés. Bienvenue à tous. On joue dans votre camp.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Et alors on parlait tout à l'heure aussi de cette victoire allemande face aux États-Unis. Allemagne 2, États-Unis 0. C'est John Plassard qui nous en parlait parce que Volkswagen investit 5 milliards de dollars dans une entreprise avec Rivian. Rivian en profite d'ailleurs particulièrement, mais Volkswagen va pouvoir s'adjuger les technologies de Rivian dans l'électrique. C'est un premier but allemand, et le deuxième but allemand, c'est qu'il semble que Bosch s'intéresse fortement à Whirlpool, l'américain Whirlpool. Le titre Whirlpool progresse aujourd'hui à Wall Street. Peut-être Bosch va-t-il le rappeler 2-0 dans ce cas-là pour l'Allemagne. Ce serait un deuxième but pour l'Allemagne. Le titre Whirlpool gagne en ce moment un peu plus de 10% à Wall Street. On en parlait donc avec John Plassard. 2-0 pour l'Allemagne face aux États-Unis. C'était dans USA Today. Si vous avez raté le direct, les explications de John, eh bien l'argumentaire, l'analyse complète de John sont disponibles en replay sur notre application BFM Business. Ça y est, ça a été mis en ligne il y a quelques instants. Et plus globalement, quel potentiel pour le marché? Igor Demac nous accompagne, Vital Épargne. Bonsoir Igor.
Bonsoir Guillaume.
Ainsi que Thierry Leclerc pour AlphaJet Fair Investors. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue messieurs. Le CAC 40 aujourd'hui recule de 0,6%. On est à 4 jours maintenant des législatives. Pour l'instant, sur les marchés, on continue à danser la valse. On poursuit la valse. Vous l'entendez peut-être d'ailleurs. Ces législatives sur les marchés sont une valse à trois temps. Le premier mouvement, c'était juste après l'annonce de la dissolution, grosse tension. Le CAC 40 a perdu 6%, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne s'est amplifié. C'était le premier mouvement, on a dû encaisser. Deuxième mouvement, c'est celui dans lequel on se trouve. Le statu quo sur les marchés, on acte et on attend surtout pour savoir à quelle sauce on sera mangé à l'issue du résultat de ces législatives. On sent sur les marchés d'abord de l'attentisme. C'est le deuxième mouvement dans lequel on est en ce moment. Et le troisième mouvement, mais il est à venir. Ce sera la réaction au résultat des élections. Cette réaction sera-t-elle brutale, Igor?
J'ai l'impression que vous avez déjà choisi avec le bruit de glace. Mais alors il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une élection à deux tours. Donc après le premier tour, il faudra voir les projections définitives, puisque en nombre de députés, c'est pas tout à fait similaire au pourcentage. Elle peut être brutale. Moi, je pense uniquement si on a un scénario d'un gouvernement à majorité absolue, entre guillemets, avec des mesures anticapitalistes. ce que les marchés anglo-saxons, puisque c'est eux qui nous dirigent, ne
price pas du tout là.
Ne price pas parce que ça n'est jamais vraiment arrivé à part en mai 81 où en fait le CAC 40 a subi sa plus forte baisse mensuelle de l'histoire, même plus qu'en 1940 et plus qu'en 2008, donc moins 31%. Donc je pense que ce scénario-là, il est, il y a une faible probabilité, très faible, mais ce scénario-là n'est pas aujourd'hui dans les marchés. Le scénario qui est dans les marchés, me semble-t-il, c'est soit un gouvernement évidemment centré autour du Rassemblement national qui a une conscience fiscale, et là on se dirige un peu vers une espèce de mélanisation de la France. C'est un scénario qui est maintenant dans pas mal de commentaires qu'on peut lire. Soit un scénario un peu type néerlandais, Mark Rutte, avec une grande coalition. Mais pour ce faire, il faut être d'abord un très bon politicien. Il faut avoir une capacité d'union, puisque le futur secrétaire général de l'OTAN a gouverné avec quasiment tous les partis pendant plusieurs mandats. Donc c'est un peu ces deux scénarios que les marchands ont en tête. Et entre ces deux scénarios, bah, c'est un peu le vide. Donc aujourd'hui, c'est la question. Mais je pense que la baisse du spread, le calme, montre aussi qu'on n'est pas dans une situation apocalyptique. Oui. On est dans une situation qui est difficile sur les comptes publics, mais ça, on y reviendra.
Sur les comptes publics, mais en gros, et pour parler clair aussi, le programme du Rassemblement National, si le Rassemblement National obtenait une majorité absolue, on parle du programme économique et uniquement d'économie vu des marchés, hein, ici dans BFM Bourse. Ce programme a beaucoup moins de quoi faire peur aujourd'hui qu'il y a 10 jours, par exemple. Ils ont mis beaucoup d'eau dans leur vin, c'est ça?
Oui. Bah, d'abord, les promesses de campagne ne sont pas la réalité. On l'a encore vu en Italie. Puis, il ne faut pas oublier qu'il y a deux rappels historiques que je fais souvent. C'est la mise sous tutelle, ou en tout cas l'intervention du FMI au Royaume-Uni, hein, qui est quand même un pays ultra-capitaliste, en 1976. Et puis, le deuxième contre-exemple, c'est Tsipras, qui en Grèce applique un programme du FMI qui est extrêmement difficile. Donc, en fait, vous voyez, l'être politique n'est pas toujours le même avant et après son élection. Et puis après, il y a la réalité. Donc la réalité, c'est gérer un pays qui se finance avec des non-résidents qui représentent plus de 50% du financement de la dette.
Thierry, même question. Comment est-ce que vous interprétez ce relatif calme sur le marché? Je dis relatif parce que malgré tout, la volatilité sur le marché français est supérieure à la volatilité moyenne de la zone euro aujourd'hui sur le marché. On est à 21 de volatilité sur la France contre 17 en Europe. Donc c'est quand même un signe qu'il y a une vigilance, quoi.
Oui, bah, complètement. Bon, après, c'est la nouvelle, hein, évidemment, qui provoque la chute des marchés. Donc, la nouvelle, c'était la dissolution de l'Assemblée nationale, donc annoncée le soir du 9 juin. Depuis, les marchés ont baissé instantanément, puisque ce n'était pas pris en compte, surtout pour le gouvernement, enfin, l'État français. Quoi qu'on en pense des institutions, la Ve République fait qu'il y a quand même une forte stabilité politique en France. Et c'est vrai que c'est pas un pays qui est vu par les investisseurs comme un pays risqué politiquement. Voilà. Bon, il y a des questions de dette, etc. Donc on n'est pas.
Et ça, c'est peut-être en train de changer justement l'image
oui,
que la France.
Tout à fait.
A toujours...
Non, mais donc ça a été le premier temps de votre valse dont vous parliez précédemment. Oui. C'est ça. C'est pourquoi les marchés baissent. Bah parce que il y a un élément nouveau qui vient et qui est vraiment nouveau. Donc au début d'année, on avait énormément parlé du risque lié aux élections parce que dans beaucoup de pays, on vote. Le risque d'élection en France, il était à zéro. Bon, des élections européennes, bon, même si la majorité présidentielle avait un mauvais score, on l'avait déjà vu plein de fois, donc c'était pas vraiment identifié. Et là, effectivement, dissolution avec à la porte du pouvoir, en tout cas deux partis aussi qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en France aux manettes. Donc tout ça provoque énormément d'instabilité et d'où le niveau d'incertitude qui perdure. Et ça va pas s'enlever, ça va pas disparaître dans les prochaines semaines. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous, on a plutôt regardé ce qui s'est passé côté italien. Enfin, je pense que nos amis et voisins italiens regardent tout ça avec beaucoup de... Je sais pas si c'est amusement, ils sont... Mais bon, eux, c'est vraiment leur lot quotidien.
Oui, ça leur rappelle quelque chose, effectivement.
Ça leur rappelle quelque chose. Donc bon, ils sont surpris de notre surprise. Néanmoins, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé un peu le gouvernement de Giuseppe Conte, là, en 2018, ce qui s'est passé sur le spread entre donc, le BTP italien et le Bund allemand. Donc, on avait à peu près un spread d'1% avant que le gouvernement donc, de Conte. Donc, pour mémoire, c'était le mouvement 5 étoiles. Donc, ça semble loin, mais c'était pas assez. C'est donc plutôt populiste de gauche qui a fait un accord donc, de gouvernement avec Salvini. Donc là, c'était plutôt l'autre bord politique, hein, plutôt extrême droite. Donc ça, c'est des choses qui ont été mises en place donc, en Italie en 2018. Le spread, il est monté il était à 1% avant cette tension politique. Il est monté à 3%. On est revenu ensuite, au fur et à mesure. Ça a été un gouvernement qui a été long en Italie, puisqu'il s'est terminé en février 2021. Donc ça a duré plus de 2 ans et demi. Et le spread, il est revenu à 1%. D'accord. Aussi, pour mettre les choses en perspective, aujourd'hui, donc, on est à 1,5 sur le spread Italie par rapport au Bund allemand. Le pic qu'on a eu, c'était en 2011, hein, bon, la crise des dettes des pays du Sud. On était monté à plus de 5%. Donc voilà, 1% en en rythme de croisière, 3% en rythme en pic de stress, et le plus gros pic qu'on ait eu sur les 50 dernières années sur la zone européenne, c'était 5%. Alors, est-ce que c'est extrapolable à la France? Je pense pas, parce que le niveau de la dette et la situation politique est différente, mais ça donne un peu les ordres de grandeur qu'on peut avoir. Donc, enfin, en tout cas des mais ce qui est important de retenir, c'est que je n'ai aucune idée du spread, comment ça va se terminer. Par contre, c'est tout à fait possible d'avoir des coalitions, même un peu hétérogènes, hétéroclites, qui se mettent en place. En France, on n'a pas l'habitude, mais ça, c'est... Oui, oui. En gros, c'est business as usual dans beaucoup de pays en Europe. Donc, pourquoi pas ça en France? Il y aura certainement une progression du spread à ce moment-là français. Mais après, rappel de retour à la réalité et... certainement qu'on pourra attendre un spread qui diminue au fur et à mesure.
C'est intéressant, c'est parce que c'est un scénario un petit peu dans le temps, là, et c'est ça qui est intéressant, effectivement, parce que juste après le résultat du deuxième tour des élections législatives, peut-être y aura-t-il des réactions erratiques, à fleur de peau du marché, selon qu'il y aura une majorité absolue ou pas. S'il y a une majorité absolue, si c'est celle du Rassemblement National, bah, dans ce cas, le marché regardera qui prend Bercy, qui devient ministre de l'économie. Est-ce que c'est un pur politique issu des rangs du Rassemblement National? Là, peut-être le marché se dira, oula, économiquement, ça risque de dérailler. Ou est-ce que ce sera une figure, pourquoi pas une figure des banques françaises, par exemple, un grand banquier? Enfin voilà, on sait que le Rassemblement National en ce moment est en train effectivement d'essayer de s'acheter du crédit vis-à-vis des marchés et de contacter un certain nombre de grandes figures économiques pour, pourquoi pas, s'il accède au pouvoir, prendre les rênes du ministère de l'économie. C'est Mathieu Pecheberti qui nous l'explique. Écoutez.
Un à un, ils démontrent tous avoir été approchés par le Rassemblement National et encore moins vouloir être ministre de l'économie de Jordan Bardella. L'ancien PDG d'AXA nous précise que leur programme est à l'opposé de ce que je défends à l'Institut Montaigne. Henri de Castres était lieutenant de François Fillon pendant la campagne de 2017 et destiné à diriger Bercy. Mais il n'est pas le seul à y conduire Marine Le Pen. Yves Perrier, ancien patron du gestionnaire d'actifs Amundi, dément aussi tout contact et son entourage assure que cela n'a aucun sens. Tout comme l'ancien patron de la Bred, Olivier Klein, qui se définit comme social-démocrate. Le Rassemblement National peine à trouver un profil capable de rassurer les marchés, alors que la France doit lever 300 milliards d'euros cette année. Selon un cadre du RN, la piste interne semble écartée à ce stade, alors que Marine Le Pen cherche un banquier. Le député de la Commission des Finances, Jean-Philippe Tanguy, n'est donc plus seul sur les rangs.
Effectivement, Jean-Philippe Tanguy, des rangs du RN, et là on est sur un profil purement politique. Ce sera important, le profil du... Juste pour essayer d'anticiper ce que seraient les réactions de marché vraiment dans les premiers jours, au moment où on sera entre le résultat des élections et la constitution du gouvernement, et l'annonce, ça y est, du ministre de l'économie. Est-ce que le nom du ministre de l'économie pour les marchés sera peut-être même plus important que le nom du Premier ministre, Igor?
Écoutez, quand je vois toutes les grandes figures intellectuelles qui ont défilé depuis 1974 à ce poste et les comptes publics français, je suis pas complètement convaincu par le raisonnement qui dit c'est parce qu'on est compétent techniquement qu'on sait gérer les finances publiques. Bon, il faut avoir quelqu'un qui puisse être crédible, mais surtout quelqu'un qui soit plutôt neutre, parce qu'en fait, on est déjà sous tutelle, on est sous surveillance de l'Europe, on est dans une union monétaire. Donc le ministre de l'économie, finalement, il n'a pas un pouvoir gigantesque, il en a de moins en moins. Ce qui est très intéressant de regarder sur l'exemple de la France, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de complaisance de la part des marchés financiers, Mais en fait, on est un des pays les plus leveragés, avec le plus de dettes en zone euro désormais. Il y a trois périodes. La période 2000-2008, où en fait, on est en dessous de la moyenne de la zone euro en termes d'endettement public sur PIB ou d'endettement total, c'est-à-dire quand on inclut l'endettement des ménages et l'endettement des entreprises hors financières. 2008, on commence à dépasser la moyenne. Et 2012, on est systématiquement au-dessus de la moyenne. Et là, on a un gros écart et on n'a fait aucun effort. Pourquoi on n'a fait aucun effort ? Parce que les autres pays qui étaient dans cette situation-là ont été punis. Grèce, Portugal, Espagne, Italie. Donc nous, on attend un petit peu la punition, on attend un peu la fessée, même si je crois que c'est interdit maintenant par l'Union européenne. Mais je pense qu'on va être confronté à des mises sous tutelle de fait. Donc le poste de ministre de l'économie et des finances, à mon sens, n'est pas crucial. Après, c'est plus la gouvernance globale, la mandature qui va émerger de ce vote qui sera importante. Mais il y a plein d'exemples, on le citait, de formations politiques, même en Allemagne, de coalitions complètement contre nature, qui font que il faut quand même gérer le pays, il y a des citoyens et il y a des entreprises à faire tourner.
Thierry, alors vous suivez les marchés à travers les valeurs aussi, les petites et moyennes valeurs, entre autres, qui décollaient, qui redémarraient, qui se réveillaient jusqu'à l'annonce de la dissolution, et depuis, les petites et moyennes valeurs françaises souffrent davantage et sous-performent d'ailleurs les autres petites et moyennes valeurs en Europe. Qu'est-ce que vous dites à vos clients là-dessus? Est-ce qu'il faut revenir? Est-ce que ces baisses sont des points d'entrée ou on attend? Enfin, comment vous regardez le potentiel et l'impact boursier?
Alors, il y a plusieurs lectures à ce mouvement. C'est compliqué de dire à un client de ne pas sortir si on est dans un contexte effectivement de tension. Donc c'est libre à lui de pas être exposé sur des actifs qui sont toujours classés parmi les plus risqués. Voilà, les actions c'est risqué. Et dedans, les petites valeurs sont plus risquées que les grandes. Voilà, donc c'est pavlovien comme schéma. On a beau expliquer tout ce qu'on veut, c'est comme ça. Donc on va certainement pas lutter contre ça aujourd'hui. Néanmoins, quand on prend, alors c'est vrai que sur la France, ça souffre clairement. La France souffre, et donc les petites capitalisations ont un bêta supérieur à 1 sur le marché, donc forcément elles souffrent plus. Néanmoins, quand on prend un petit peu de hauteur, en Europe, aujourd'hui, on voit pas. C'est vrai que parce que le mouvement de baisse massive sur les petites capitalisations, il était européen, voire mondial, hein, puisque même le Russell 2000 aux États-Unis avait fortement baissé en relatif. En Europe, les petites capitalisations tiennent bien. Il y a pas de donc en gros, nous ce qu'on a regardé là, les mouvements de ces dernières semaines, il y a effectivement des investisseurs plutôt avisés qui ont commencé à refaire des positions sur les petites capitalisations ces dernières semaines, donc, et ils ne vendent pas. Voilà. Donc là, effectivement, il y a des flux plutôt de short, etc., qui se mettent en place. Mais ceux qui avaient acheté précédemment, dans les semaines qui, donc avant le contexte dans lequel on est aujourd'hui, gardent leur position. Donc il y a pas de grand signal d'inquiétude. Alors je vais pas non plus vous faire un call agressif sur les petites capitalisations françaises. Voilà, on n'est pas non plus téméraire à ce point-là. Mais par contre, ce qui est important, c'est de raisonner sur la classe d'actifs. Et il n'y a pas de signaux de vente aujourd'hui sur cette classe d'actifs-là.
Vous prendriez, Igor, un call plus agressif ou pas ? Enfin, on a vu quand même des baisses de marché très très nettes depuis l'annonce de la dissolution. Mais on voit que sur l'obligataire, finalement, les dégâts sont un peu moins importants qu'ils ne l'ont été sur le marché actions. Est-ce que ça, c'est signe qu'il y a peut-être un potentiel de rebond à venir, surtout si finalement le marché se dit économiquement c'est peut-être pas peut-être que si, enfin bref, en tout cas la France ne va pas dans le mur. Voilà, si le marché se dit au lendemain des législatives, économiquement en termes de budget, la France évitera le mur.
Les petites valeurs françaises sont plus exposées en fait au PIB domestique, entre guillemets, enfin à l'activité domestique, mais il y en a aussi qui sont internationales, donc je pense que là c'est un moment un peu crisique. C'est normal que ça baisse. Nous, on a toujours pensé qu'il y avait un avantage de valorisation. Il faut traverser les 3 à 6 mois prochains. La trajectoire de croissance économique de la France, c'est important pour même les grandes valeurs. Alors, c'est vrai que les valeurs du CAC 40, LVMH, font plus d'affaires véritablement en France. En tout cas, la majorité de la marge est faite à l'étranger ou avec des clients étrangers. Mais si on a un potentiel de croissance bien moins élevé que les autres, ça va aussi se refléter dans les comptes des entreprises françaises grandes. Donc je pense que le sujet est le même. L'avantage, c'est que les petites valeurs, elles coûtent moins chères, elles sont plus d'écoutées historiquement. Donc c'est vrai qu'on a toujours tendance à les regarder. Et peut-être que cette crise politique va nous offrir des points d'entrée. Mais je pense que c'est aussi vrai pour l'élection américaine. La volatilité, c'est l'ami du gérant, l'ennemi du client, j'ai l'habitude de dire.
Si vous avez des questions, vous tous qui nous suivez, d'ailleurs, n'hésitez pas vos questions à nous les envoyer chaque jour. Ce QR code qui apparaît depuis le milieu de l'après-midi sur vos écrans si vous nous suivez à la télévision. Et si vous êtes à la radio, vous pouvez nous adresser vos questions sur votre portefeuille boursier, l'impact des législatives, mais aussi toutes les autres thématiques de marché à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr. Est-ce que, alors, plus globalement, parce que là on parle beaucoup des législatives françaises, mais est-ce que plus globalement vous sentez le marché, les marchés essoufflés, les marchés européens, Wall Street également, comment est-ce que vous sentez le potentiel à venir des marchés dans la mesure où plusieurs membres de la Fed là s'expriment, toujours pas plus d'ouverture sur des baisses de taux, on approche quand même du mois de septembre, désormais on est presque à l'été, bon, on croit toujours à ces baisses de taux et quand elles vont arriver elles pourraient apporter du potentiel supplémentaire ou elles sont déjà dans les cours et finalement quand on aura la nouvelle on risque de la vendre en bourse? Qui se jette à l'eau là-dessus, Thierry?
Non, mais enfin là, par rapport au début d'année, quand même, on a beaucoup bougé. Enfin, justement, la non-évolution de la Fed, enfin, la non-prise de décision sur les taux directeurs a fait que le consensus des attentes par rapport donc aux décisions de la Fed, et on n'a plus qu'une baisse attendue d'ici la fin de l'année. Donc, avec effectivement les élections qui arrivent début novembre, bon, il y a la fenêtre de tir, elle est quand même très très resserrée. Donc, en gros, mon message, c'est de dire que effectivement, les marchés aiment bien les baisses de taux, clairement. Elles ne sont pas intervenues, là je parle des États-Unis, alors qu'elles étaient attendues. Pourtant, le S&P 500 a progressé de pratiquement 15%. Donc voilà, il arrive à faire fi de ça. Et donc, c'est plus vraiment un sujet, puisque donc on est à la moitié de l'année et qu'aujourd'hui, on n'attend plus qu'une baisse des taux. Après, c'est vrai que cette première baisse des taux devrait, ça c'est encore dans le consensus, en enclencher plusieurs. Bon, alors ça, mais c'est un sujet 2025, donc on a quand même un peu d'eau qui passera sous les ponts d'ici là.
Oui, et les résultats, les publications des entreprises aussi qui vont démarrer, parce que mine de rien, on arrive sur le mois de juillet, là. Est-ce que ces publications seront un catalyseur, un moteur de plus pour le marché? Enfin, qu'est-ce que vous en attendez de cette saison de publication qui approche, Igor?
Je pense qu'on en attend la confirmation que la croissance économique mondiale, certes, s'est un peu affaissée, mais qu'elle est toujours autour de 7, de 8 sur cette année et un peu plus l'année prochaine. Donc, s'il n'y a pas de dérapage sur cette croissance économique mondiale, avec des conditions d'octroi de l'argent moins coûteux avec une ouverture des vannes du crédit en zone euro, les conditions en fait dans lesquelles les entreprises travaillent sont les mêmes. Donc il n'y a pas forcément de raison que les entreprises publient des mauvais résultats ou un changement de cycle. Moi j'en vois pas, mais peut-être que on aura une surprise. Il y a évidemment les valeurs technologiques qui sont des phares en matière de publication, mais qui sont pas non plus le reflet de la croissance économique mondiale. Mais c'est vrai qu'elles sont tellement à la mode, tellement détenues, qu'elles sont très scrutées. Et ça peut faire basculer un peu l'opinion des investisseurs, parce que quand Nvidia déçoit un peu, elle va perdre beaucoup, donc il y a des milliards, des centaines de milliards de capi qui vont s'évaporer. Mais c'est plus psychologique.
On se disait, parce qu'en fin de semaine dernière et en début de semaine, certaines techs, notamment Nvidia, avaient chuté de plus de 10%. On se disait, ça y est, c'est le début, le vrai début de la rotation sectorielle. On voit que depuis, Nvidia a récupéré à nouveau du terrain, encore en hausse aujourd'hui, une hausse hier de 6% aussi. Voilà, on n'est toujours pas sur la rotation sectorielle. Est-ce que cette saison de publication pourrait la déclencher davantage, la rotation, Thierry?
Alors, je ne vais pas répondre là sur la question, sur Nvidia, mais juste pour compléter ce que Igor a dit précédemment. Premièrement, c'est vrai que je disais précédemment que le S&P 500 avait donc progressé de 14%, 14-15% depuis le début de l'année. Et c'est vrai qu'il a été alimenté par des résultats qui étaient supérieurs aux attentes des analystes. C'est toujours pareil, ce que je disais, pareil que pour les taux, la crise politique en France. Là, c'est les surprises politiques, les surprises qui alimentent les hausses. Et donc, concrètement, on attendait, le consensus des analystes attendait 2,5% de croissance des résultats sur le premier trimestre et sur le quatrième trimestre 2023. Et finalement, la croissance a été de 8%. Donc quand même significativement au-dessus de ce qui était attendu par le consensus. Donc ça a apporté du fuel pour les prochains trimestres. Donc ce trimestre-là de cet été et le troisième trimestre, le consensus est à 8%. Donc il s'est calé sur les croissances précédentes. Donc effectivement, la marche, elle est plus haute à franchir. Et voire même si on extrapole jusqu'à 2025, on a 10%. On a une croissance attendue double digit, comme disent les Anglais. anglo-saxons. Oui. Donc oui, effectivement, ça va être moins facile.
Priorité au direct, messieurs. Étienne nous appelle, c'est la séance qui va bientôt se terminer dans 6 minutes. Étienne, depuis la Tour Euronext, comment se présente cette clôture que vous nous ferez vivre dans un instant?
Du rouge, deuxième séance dans le rouge, ce qui n'est pas arrivé depuis une dizaine de jours à la Bourse de Paris. Tout l'enjeu, c'est de savoir si les 7600 points seront préservés au fixing, qui sera dans précisément 6 minutes, 7608 points à l'instant, avec Airbus qui continue de peser sur la tendance, moins 2,9% pour la valeur à 131 euros. À noter que les volumes d'échange se calment un petit peu par rapport à hier, 1,8 milliard d'euros juste avant le fixing.
A tout de suite Étienne pour la clôture, donc dans un instant auparavant, 17h29, on entre dans la Data Room. C'est votre hug avec les data. Rien n'embrasse mieux le réel qu'une bonne data. Ils viennent avec des data hallucinantes, impressionnantes, qui en disent plus qu'un long discours. Thierry et Igor, êtes-vous prêts?
Oui.
Vous avez chacun une minute pour nous livrer une data forte. On va démarrer avec vous, Igor. Votre chiffre ce soir, un peu plus de 33 700. De quoi s'agit-il?
Oui, c'est pas le prix du lingot, c'est simplement la valeur de l'indice action italien, le FTSE MIB, qui regroupe les 40 plus grandes valeurs italiennes. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est un indice qui présente une décote d'environ 20% par rapport à son historique, qui en valeur absolue se paye moins de 10 fois les bénéfices. Certes, il est très polarisé sur le secteur financier, les banques, les assurances, les asset managers, les gérants d'actifs. Et c'est aussi un indice qui est en décote par rapport à l'indice général européen d'une trentaine de pourcents. On l'a vu budgétairement, l'Italie est un pays qui a fait des efforts sur sa dette, c'est un pays qui est exportateur, c'est un pays qui est industrialisé, et c'est peut-être un exemple à suivre pour nos dirigeants français, en tout cas, même si le pays connaît aussi des difficultés. Mais je trouve que la valorisation des
quand on prend l'exemple, quand on prend l'Italie en exemple, c'est quand même le signe que tout ne va pas bien, on est d'accord?
Bah écoutez, ça a été un exemple historique pour nous, il y a eu des grands dirigeants italiens qui sont venus nous donner la leçon, Catherine de Médicis, Machiavel. Donc non, je crois qu'on doit relire l'histoire. C'est un pays qui politiquement a donné beaucoup d'impulsion finalement à ce qu'on voit aujourd'hui, le populisme avec Berlusconi, les mouvements de gauche avec la 5 étoiles, et puis cette union autour de la droite dure ou forte. Donc non, je pense que c'est un bon marqueur, et il ne faut pas mépriser nos cousins latins, au contraire.
On les aime.
En tout cas, en matière financière et d'épargne, ils sont très bons.
Et le FTSE MIB, donc la bourse de Milan, pour vous, présente l'un des meilleurs potentiels européens, mieux que le CAC 40, plus que le CAC 40.
C'est pas tout à fait le même indice, parce que le CAC 40, il est tiré entre des grandes valeurs de croissance mondiale et des plus petites, des valeurs très domestiques et des valeurs très, par exemple, conso luxe chinoise. C'est moins vrai pour l'Italie, et c'est encore moins vrai quand on descend sur les small et mid cap italiennes, où là, il y a des très belles histoires industrielles, domestiques et internationales.
Igor s'est livré pour nous. À vous, Thierry, de faire aussi bien, la barre était très haute. Votre data ce soir, votre chiffre, 1.
1, oui, effectivement, c'est le nombre de secteurs qui sont en dynamique positive aux États-Unis. Donc, on a des scores sur les secteurs en Europe et aux États-Unis.
Un seul secteur.
Et aux États-Unis, il n'y a qu'un seul secteur. Bon, vous avez deviné lequel, la tech, au sens large, qui est en dynamique positive. Et tous les autres secteurs sont donc en dynamique négative, c'est-à-dire à l'arrêt ou avec un momentum, comme on dit, négatif. Et ça, depuis qu'on suit, donc depuis 18 ans, c'est la première fois que ça arrive. Donc, ça en dit long quand même sur le marché américain, qui est effectivement, on le sait tous, très tiré par la tech, / les Magnificent Seven, les 7 magnifiques, / Nvidia. Donc oui, il y a un vrai sujet, et en tout cas, nous, on n'a jamais vu cette configuration de marché actuelle donc depuis 18 ans.
Et pour la suite, est-ce que vous avez un scénario majoritaire sur cette dynamique de la tech, seul secteur en dynamique, vous le disiez, aux États-Unis, incroyable.
Alors déjà, juste pour rassurer un petit peu, c'est pas parce que dans ces configurations c'est une configuration unique, mais où en tout cas il y a que un, deux ou trois secteurs qui sont vraiment en tête. Ça ne provoque pas forcément un retournement du marché derrière. C'est pas un indicateur avancé de retournement de marché. Ensuite, nous, on a donc effectivement trois scénarios. Un, le statu quo, c'est-à-dire que la tech continue de tirer très fort et tous les autres secteurs sous-performent, en gros, pour dire les choses clairement. Ça, c'est un scénario. Notre scénario central, effectivement, c'est que la tech reste forte et que certains secteurs, donc pas tous évidemment, mais on voit bien par exemple les matériaux, La consommation, notamment discrétionnaire, on parle beaucoup de pouvoir d'achat. Il faut savoir que donc il va y avoir du vent dans les voiles pour la consommation américaine dans la deuxième partie de l'année, ou même la pharma qui peuvent bien se comporter sur, donc en tout cas c'est ce qu'on anticipe sur la deuxième partie de l'année. Et puis donc ça c'est notre scénario central. Oui. Et le troisième scénario, ça serait donc que la technologie au global baisse. Et puis donc ces secteurs en retard montent, voilà. Donc je l'ai dit, notre scénario central, c'est plutôt une tech qui reste forte. Vous avez mentionné Nvidia qui a bon voilà des prises de bénéfices, mais il y a rien de changé, enfin à ma connaissance, entre fin mai quand ils ont publié leurs résultats, ils sont en exercice décalé, et aujourd'hui donc bon aujourd'hui ça continue d'être un titre et un secteur attractif.
Et on le voit d'ailleurs, Nvidia qui a fortement rebondi hier de plus de 6%, mais continue de progresser sur la séance du jour aux États-Unis. Effectivement, enfin quoi que non, tiens, ça s'est retourné à la baisse, il y a un petit peu de volatilité. On était en hausse tout à l'heure, ben on perd 2% aujourd'hui. Voilà, c'était juste pour ben voilà, pour être contredit par les faits. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. C'était la Data Room. Thierry Leclerc et Igor Demac, nos spécialistes. Bonne soirée, messieurs. Dans un instant, c'est la clôture. Place à la clôture, place au direct. Étienne Braque, depuis la Tour Euronext. On va voir comment le CAC 40 termine après la baisse d'hier. Nouvelle baisse ce soir. On va regarder l'ampleur de cette baisse, les volumes également. C'est à suivre juste après la pause. À tout de suite.
BFM Business, BFM Bourse, la clôture à Euronext.
Étienne Braque avec nous pour cette clôture, effectivement, du CAC 40 et des marchés européens. Comment termine-t-on ce soir, Étienne?
Dans le rouge, deuxième séance dans le rouge, ce qui n'est pas arrivé depuis une dizaine de jours à la Bourse de Paris. Après avoir cédé un peu plus de 0,8% hier, le CAC 40 cède 0,7%, mais néanmoins arrive à se maintenir au-delà des 7600 points, 7609 points, à souligner qu'en clôture, le CAC 40 est sur des plus bas d'une semaine. Souvenez-vous, on était au-delà des 8000 points avant la dissolution, donc on est sur une baisse de 5% désormais en l'espace de 15 jours, 3 semaines. À noter que Refin Scientifique poursuit son rebond après avoir perdu du 15% hier, plus 4% hier, moins 15% pardon, lundi, plus 4% hier, plus 3% ce soir à la clôture, au-delà des 47,50 €. Téléperformance également poursuit son envolée, plus 2%, au-delà des 100 €. Puis le secteur du luxe également est au rendez-vous, à l'image de Kering qui gagne 0,4%, L'Oréal plus 0,25%. À l'inverse, Airbus qui perdait plus de 10% hier perd à nouveau du terrain. C'est de loin la plus forte baisse du CAC 40, moins 2,8% à 130,98 €. Et puis hors CAC 40, a souligné Atos qui dévisse de plus de 6%. C'est la plus forte baisse du SBF 120 avec David Layani qui jette l'éponge, qui finalement ne va pas reprendre le groupe. Donc des nouvelles négociations sont en cours avec Daniel Kretinsky, nouvelle phase d'incertitude pour le groupe. 1,12 € ce soir à la clôture. Et puis du côté d'Amsterdam, a souligné Alphen qui décroche de 46% ce soir à la clôture sous les 17 €. Après avoir averti sur ses résultats annuels, la pilule a beaucoup de mal à passer. Le titre est sur des plus bas de 4 ans. Le CAC 40 donc qui cède du terrain. Moins 0,7% ce soir à la clôture, 7609 points. Le tout avec des volumes d'échange qui étaient faibles jusqu'au fixing, 2 milliards d'euros. Et puis finalement, vous avez 1,5 milliard qui s'est ajouté au fixing. Donc vous avez 3,5 milliards d'euros négociés ce soir dans l'indice parisien.
Effectivement, il nous accompagne depuis Bourse Direct également, Romain Daubry. Bonsoir Romain. Étienne le souligne, on a Alphen qui recule très très fortement. Un énorme plongeon historique ce soir pour Alphen. On a Trigano qui a beaucoup souffert aussi hier sur sa publication. Bon, est-ce que ce sont des petits signaux quand même indiquant une fragilité potentielle sur les marchés? On n'est pas encore au début de la saison de publication, mais voilà, c'est quelques rares publications qu'on a en ce moment et qui sont parfois arbitrées très très nettement à la baisse. Est-ce que ce genre de réaction de marché montre une fragilité sous-jacente en bourse?
Oui, puisque ce sont des décalages qui se font sur des nouvelles, mais on le voit que ça ne concerne pas que les petites capitalisations. Il y a des titres à grosse capitalisation qui ont connu des décrochages violents. Si on regarde Refin Scientifique, qui a bien rebondi depuis, mais Airbus qui baisse pas mal depuis ses tops, qui a rompu des niveaux importants. Puis on voit l'indice CAC Small qui a, lui, rompu des niveaux de support importants, qui est maintenant négatif depuis le début de l'année, alors qu'il était en train de faire jeu égal, voire même de dépasser l'indice CAC 40. Donc oui, il y a des dégagements, il y a de la prudence de la part des opérateurs, la volatilité reste tendue au-delà de 21 pour le CAC 40, et puis des positions ouvertes aussi sur les marchés dérivés qui sont très en retrait des intervenants, des opérateurs qui ne prennent pas d'initiative. Ça laisse un marché peu dense et donc avec des écarts potentiels importants, un retour de la volatilité qui est probablement à prévoir, volatilité intraday et des écarts sur des annonces, peut-être voilà, par exemple avec l'inflation qui sera publiée aux États-Unis vendredi.
Merci beaucoup Romain Daubry, puis Bourse Direct qui nous accompagne jusqu'à 18h. On va tout de suite refaire la séance, vous apporter des idées de valeur aussi si vous voulez compléter vos portefeuilles. On sera très concret, c'est parti.
BFM Bourse, on refait la séance.
Et d'ailleurs, si vous avez raté ce qui précédait dans l'émission, Franklin Pichard était avec nous sur les marchés pour nous parler cash des marchés et de leur potentiel. Il nous disait, sur les marchés en ce moment, c'est vraiment le calme avant la tempête, mais tempête il y aura. Tempête il y aura, c'est ce qu'il nous disait dans la Bourse Cash à 15h40. Bon, il nous a apporté ses arguments. Si vous l'avez raté, c'est à retrouver en replay sur notre application BFM Business. Tempête il y aura ou pas d'ailleurs? On va leur poser la question aussi à nos experts ce soir qui nous accompagnent jusqu'à 18h. Abdel Redjeb, Monségur Finance. Bonsoir Abdel.
Bonsoir Guillaume.
Ravi de vous retrouver. Franck Morel depuis Zone Bourse. Bonsoir Franck. Ravi aussi de vous retrouver depuis les rives du lac d'Annecy.
Bonsoir.
Tempête à venir ou pas sur les marchés? Comment est-ce que vous préparez vos portefeuilles boursiers avant les législatives? Abdel.
C'est vrai ce que disait Romain, c'est très juste. Il y a un retour de la volatilité sur les marchés qui était assez calme. On voit que la vol en Europe elle a quasi doublé depuis l'impact de la dissolution en France. Pas mal de volatilité, que ça soit intraday, c'est très difficile d'avoir de la visibilité, que ça soit sur les élections françaises ou même les élections américaines à la rentrée. Donc plutôt une visibilité très réduite, et on a toujours sur le fond de toile de la baisse des taux, mais quel sera le timing, puisque le timing semble assez restreint sur le reste de l'année. Et enfin, le gros catalyseur, je pense, ça sera surtout la publication de résultats d'entreprises, qui sera plutôt bonne et qui pourrait rassurer un peu les esprits. Mais en cas de mauvaise publication, là on serait dans une tempête parfaite sur les marchés, et ça risque de secouer sur les semaines qui arrivent.
Bon, et le troisième trimestre dans lequel on entre est souvent en bourse un trimestre assez incertain qui offre pas mal de surprises en termes de performance, et souvent c'est pas le meilleur trimestre d'ailleurs en termes de performance, ce troisième trimestre dans lequel on va entrer avec le mois de juillet qui approche. Franck, c'est une question que nous posent aussi régulièrement nos auditeurs et téléspectateurs à l'approche de ces législatives. C'est vraiment notre fil rouge depuis la dissolution, et on essaie de répondre, d'être très serviciel, de répondre de façon très pratique à ces questions que nos auditeurs et téléspectateurs nous envoient. Est-ce que vous voyez des valeurs malgré tout susceptibles de rebondir fortement, celles qui ont peut-être le plus souffert depuis l'annonce de la dissolution? Est-ce que c'est ces valeurs-là qu'il faut privilégier, ou au contraire, plutôt privilégier d'autres titres qui n'ont pas beaucoup réagi depuis la dissolution et qui ne réagiront pas non plus aux résultats à venir des législatives, des titres un peu immunes à la politique?
Non, alors, chez Zone Bourse, en tout cas pour ma part, nous sommes très inquiets de la situation politique en France. Que ce soit à gauche ou à droite, on a des programmes qui, au niveau économique, n'ont pas un niveau de troisième. Donc on est extrêmement inquiets, et on est tout sauf confiants sur le business en France en général. Et donc on a d'ailleurs réorienté complètement notre portefeuille Europe ces derniers jours. On a sorti les 4/5 de nos sociétés françaises, et donc on suggère fortement de désinvestir les sociétés qui font beaucoup de chiffre d'affaires en France, même de réduire son exposition à la monnaie unique, à l'euro, en s'intéressant par exemple aux marchés européens que sont le Royaume-Uni ou la Suisse, qui ne sont pas éligibles au PEA mais qui ont le mérite d'être dans d'autres monnaies que l'euro, puisque on a vraiment beaucoup de mal à être optimiste compte tenu de ce qu'on voit des derniers sondages, des programmes. Au mieux, une instabilité avec aucune majorité, ce serait reculer pour sauter probablement de plus haut. Donc on est sous-investi sur la France, et on suggère fortement de le faire, et certainement pas, en tout cas, de faire ses courses en ce moment, et avec de nombreux secteurs qui vont sous-performer ces prochaines semaines de manière évidente, les bancaires, l'immobilier, la distribution, les valeurs cycliques, donc ça fait quand même beaucoup, et voilà, donc non, absolument pas optimiste, même pessimiste, et on s'est préparé à ce scénario au cours des derniers jours, dernières semaines.
Bon, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne, il est stable, hein, on est toujours pas sur l'incendie, il y a toujours une vigilance, une pression des marchés, c'est vrai, il y a 72 points d'écart de taux aujourd'hui, 72 entre la France et l'Allemagne, mais voilà, c'est très très stable depuis plusieurs jours. On sent d'ailleurs que certains programmes, malgré tout, alors Franck, voilà, recommande la prudence, mais il y a certains programmes qui sont un peu édulcorés quand même, c'est le moins qu'on puisse dire depuis quelques jours, beaucoup d'eau dans le vin, on va le dire comme ça, ce qui peut-être participe à rassurer le marché, c'est un grand mot, mais en tout cas éviter à ce stade l'incendie. Vous, vis-à-vis de vos clients chez Monségur, qu'est-ce que vous dites? Quels arbitrages est-ce qu'il faut réaliser dans les portefeuille? Est-ce que, comme Franck, vous êtes très prudent et vous dites mieux vaut éviter les marchés, même hors, enfin éviter le marché français, nous dit Franck, éviter même les marchés de la zone euro et privilégier pourquoi pas la Suisse ou le Royaume-Uni? Est-ce que cette idée-là vous parle? Est-ce que c'est un discours que vous pourriez tenir à vos clients, Abdel?
Elle nous parle. On a allégé notre exposition France, mais pas totalement allégé. On reste investi sur la zone française. On a quelques beaux dossiers en faisant du stock picking qui nous paraît injustement sanctionné, comme des valeurs comme SPI, comme
comme Soprasteria qui ont juste un gros chiffre d'affaires en France, mais quand on regarde, c'est des boîtes très résilientes. Donc je pense qu'il y a quand même quelques valeurs à aller chercher. Il faut être attentif et analyser, et prendre le temps. Je pense qu'il y a des bonnes opportunités et ne pas tout jeter. Il y a des secteurs à éviter, bien sûr, comme l'a mentionné Franck, et je partage son analyse dessus. Ouais. Que ça soit les bancaires, les concessions, les utilities liés à l'État, et quelques immobiliers, quelques secteurs très fragiles sur lesquels on s'est écarté, mais d'autres ont été injustement sanctionnés, sur lesquels on s'est renforcé.
Est-ce que les introductions en bourse vont encore se raréfier avec peut-être une instabilité politique à venir encore un peu plus forte, voilà, une incertitude économique? On verra, on n'en sait rien, on ne connaît pas le résultat législatif, tout reste possible, et puis on voit que bon, du côté des discours et des programmes, les choses peuvent très très vite évoluer aussi, bref. Mais est-ce que les introductions en bourse avec cette incertitude vont être encore plus rares? Sanofi a lancé, d'après Bloomberg, Abdel, un appel d'offres pour la vente de son pôle santé grand public, un appel d'offres. Est-ce que ça veut dire que Sanofi pourrait choisir de ne pas introduire en bourse ce pôle santé grand public?
Exactement, ils ont ce qu'on appelle un dual track. Ils ont deux process. Ils ont un process de vente totale qui serait un grand fonds américain. C'est valorisé à peu près 20 milliards. Et le process d'introduction en bourse, donc distribution à leurs actionnaires. Donc ils font les deux process en même temps. Et Sanofi va prendre celui-là qui a la meilleure valorisation et le moins de risque d'exécution. Le risque, c'est quoi? C'est que les fonds américains n'achètent pas puisque le coût de la dette s'est renchéri et des incertitudes un peu sur l'économie française. Surtout que ça serait le plus gros LBO de l'année en Europe. Donc 20 milliards, il faut quand même les financer. Et pour l'introduction en bourse, alors on en a une qui s'est retirée, c'était Golden Goose en Italie il y a quelques jours. Sure. Donc c'est un mauvais signal. Pourtant, on avait un très bon signal en début d'année. Donc Sanofi peut être un peu craintif. Mais je pense que la grille de lecture, c'est de se dire quel est le process le moins risqué et qui maximise la valeur. C'est comme ça que le choix sera fait et toutes les options sont sur la table aujourd'hui.
Franck, vous nous disiez de notre côté chez Zone Bourse, donc on recommande à nos lecteurs, nos investisseurs, nos abonnés le marché suisse, le marché britannique, pourquoi pas Wall Street. Est-ce que sur ces marchés-là, il y a une valeur que vous recommandez particulièrement et que vous souhaiteriez ce soir mettre en avant, Franck?
Oh ben on a beaucoup de dossiers. Alors c'est simple, aux États-Unis il faut être investi dans la tech et dans l'intelligence artificielle. Si c'est pas le cas, vous passez à côté de la vague et c'est le seul secteur où vous avez une croissance extrêmement forte du chiffre d'affaires et des bénéfices. Et c'est ce qui guide le S&P 500. Donc il vous faut obligatoirement de l'IA et donc du dollar indirectement. Je peux vous conseiller notamment Supermicro Computer qui construit des serveurs. Il en faut de plus en plus. Il en faudra de plus en plus. Quel que soit le fournisseur de cartes ou d'accélérateurs comme tel que Nvidia, donc Supermicro Computer aux US, et puis ben en Europe, on a rentré de nombreux dossiers en Suisse et au Royaume-Uni ces derniers jours. J'ai pas de préféré parmi ces valeurs,
Vous aimez bien la défense,
notamment.
Je pense
en tout cas sincèrement qu'il faut réduire son exposition en France.
Ah. Et vous aimez bien la défense au Royaume-Uni, je crois. En préparant cette interview, on me disait, dans le contexte, pourquoi pas, quitte à investir sur le Royaume-Uni, il y a des valeurs minières très fortes, mais aussi des valeurs de défense, et quitte à investir là-bas, pourquoi pas la défense?
On peut, par exemple, effectivement, rester sur le secteur de la défense, mais peut-être compte tenu du fait qu'on va très probablement reculer sur un plan de construction européenne et d'Europe, alors que c'est évidemment sauf le bon timing pour faire ça. Et donc, si on veut investir dans la défense, parce qu'on pense qu'il faut quand même augmenter les budgets et qu'ils vont quand même être augmentés, il faut... On a meilleur temps désormais d'aller sur BAE Systems au Royaume-Uni, qui est un des leaders européens, mais qui fait beaucoup plus de business aussi avec les États-Unis et qui pourrait faire le lien entre les États-Unis et l'Europe plutôt que des acteurs nationaux allemands, français, qui pourront, a priori, n'auront pas les mêmes budgets en fonction du résultat des élections.
Cette question d'auditeur à l'instant sur notre fil X BFM Bourse, chacun peut s'y abonner, il s'appelle les tontons répliqueurs et il nous écrit souvent et on lui répond souvent, il a raison de nous écrire effectivement, il nous dit Intel et AMD, deux valeurs intéressantes, les deux Intel et AMD ont déclaré dernièrement avoir créé des GPU compétitives, bientôt proposées aux clients de Nvidia, manifestement le marché n'y croit pas, est-ce que le marché a tort, Franck?
Alors déjà, ce qu'il faut bien savoir avec Intel ou AMD, c'est qu'ils ne font que 25% de leur chiffre d'affaires, l'un et l'autre, hein, ça doit être 24 et 28%, dans les data centers, donc tout ce qui est serveur et donc dans tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle plus particulièrement. Donc le pari qui serait d'investir dans AMD ou Intel pour rattraper Nvidia, dans l'hypothèse où ils arriveraient à rattraper Nvidia qui est l'archi-leader et qui est le spécialiste et le pure player de ce métier-là depuis des années et des années, pour à la fin avoir une accélération que sur un quart de leur chiffre d'affaires, je pense que c'est c'est pas le bon pari et qu'on a meilleur temps d'acheter du Nvidia directement.
Ce soir, Micron va publier ses résultats.
Ou du Supermicrocomputer dont j'ai parlé juste avant.
Supermicrocomputer. Et ce soir, Micron, le géant des puces, là, en l'occurrence, va annoncer ses résultats après la clôture de Wall Street. C'est une valeur que vous aimez bien, en l'occurrence, Abdel.
Oui, on aime plutôt bien. Ça sera le premier test des valeurs d'intelligence artificielle après la prise de profit qu'on a eue la semaine dernière sur ces valeurs-là. On voit que le marché a quand même de l'appétit sur la publication, puisque Nvidia a plutôt bien rebondi, Micron aussi hier et aujourd'hui. C'est spécialiste d'une technologie qui s'appelle la technologie HBM, qui prend beaucoup de traction aujourd'hui, qui est très adorée. C'est une technologie qui permet de transférer rapidement des données en consommant très peu d'énergie. Donc on est plutôt positif sur Micron, et on pense que la publication sera plutôt bonne, et ça sera l'indicateur avancé, en tout cas, de la tenue du marché de l'IA et des publications à venir aux US.
À suivre après la clôture de Wall Street, la publication de Micron. On a aussi, Rivian, spécialiste des véhicules électriques, qui gagne 28% à Wall Street. Volkswagen annonce un investissement de 5 milliards de dollars. C'est quand même assez énorme dans une co-entreprise à parité avec Rivian, le spécialiste américain, plus 28% Rivian. Romain Daubry est toujours avec nous depuis Bourse Direct. Romain, Rivian, c'est une valeur qui, en bourse à Wall Street, offre encore beaucoup de potentiel, ou ça y est, là, on a, avec la hausse de 28%, fait l'essentiel de la hausse?
C'est très intéressant graphiquement ce qui se passe sur le titre. Il faut dire que depuis son introduction autour de 105, il était descendu en 2021, il était descendu à un support majeur à 8,84. Donc la recovery peut être importante aussi. Le fait est que depuis le mois de février dernier, la valeur a construit une structure de retournement haussière en épaule tête-épaule inversée. Elle l'a validée très puissamment donc l'annonce et la sortie haussière du jour en débordant 12,36. La cible idéale de cette figure, c'est dans un premier temps 17,08. On cote pour l'instant 15,31. Donc il y a encore un petit peu de potentiel sur cette impulsion haussière. Reste que les résistances suivantes sont à 19,10 et 21,90. Et surtout, si elle arrivait à sortir d'une structure d'épuisement dans la baisse, elle pourrait, au débordement donc de 19,10, aller chercher des extensions jusqu'à 27,60. Alors j'ai conscience que ce sont des cibles lointaines, mais il y a encore un peu de potentiel sur le titre. Manifestement, ça fait de l'ordre de 80%, je me rends bien compte, mais encore une fois, on part de très très loin.
Effectivement, ce titre Rivian qui avait beaucoup souffert. Encore une question d'auditeur, on s'emploie à répondre à vos questions. C'est Patrick, un de vos experts a récemment fait l'éloge de la société allemande SusMicroTech. Franck Morel, partage-t-il cette appréciation sur ce titre allemand? Faut-il y investir pour un horizon de 5 ans? Franck?
Alors, SusMicroTech, c'est un fabricant de semi-conducteurs, mais qui en fait fournit des machines qui elles-mêmes fabriquent. Donc, ils surfent clairement aussi sur la vague de l'IA, peut-être pas dans des proportions aussi fortes que les autres acteurs dont on a pu parler jusqu'à maintenant, mais c'est tout à fait. En tout cas, nos radars sont vert fluo sur SusMicroTech. Est-ce que c'est pour les 3 prochaines années ou pour les 5 prochaines années? On peut déjà se projeter à 3 ans et on verra. Entre-temps, la technologie aura fortement avancé et on verra si Nvidia et se fait disrupter et si on a d'autres technologies qui viennent remplacer. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de digitaliser le monde et donc il va falloir stocker de l'information, stocker de la data, il va falloir la calculer. Mmh. Donc tous les acteurs qui sont sur cette niche vont en profiter durablement.
Merci beaucoup messieurs. Franck Morel depuis Zone Bourse, Romain Daubry depuis Bourse Direct, Abdel Redjeb qui nous a accompagné, lui qui est venu en métro. C'est un peu compliqué parfois en métro avec les fermetures de stations liées aux Jeux Olympiques. Hein,
exactement, c'est un peu galère. C'est très pénible à part.
Merci d'être venu nous voir malgré tout, Abdel Redjeb pour Montségur Finance. BFM Bourse, c'est fini. Le CAC 40, on vous rappelle, ce soir a clôturé sur un repli de 0,7% dans des volumes de 3,5 milliards d'euros. Vous pouvez continuer à nous suivre sur notre site bfmbourse.com. Cet article consacré à Sanofi, donc on va voir si Sanofi renonce à l'introduction en bourse ou pas de son pôle santé grand public. En tout cas là, Sanofi choisit de lancer un appel d'offres pour ce pôle santé grand public. Et puis vous pouvez aussi nous suivre sur notre application BFM Business, les replays de l'émission, notamment Igor Demac, c'était dans la Data Room. Igor Demac, dans la Data Room, nous disait être très positif, très optimiste sur le potentiel de la bourse de Milan. Il nous a apporté un certain nombre d'arguments et vous savez que le marché italien est éligible au PEA. Dans un instant, Guillaume Paul et ses experts. Good evening business. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.